Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission de Radio Grand Ciel hebdomadaire qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets de société, des sujets sociaux, d'église, économiques, politiques, sportifs même parfois. Aujourd'hui, il y a deux choses. C'est évidemment la nouvelle année, mais c'est aussi et surtout et en grande partie cette émission lui sera consacrée la mort ou la naissance au ciel, on peut aussi le dire comme ça, c'est peut-être même préférable lorsqu'on est croyant, de Benoît XVI, alias Joseph Aloysius Ratzinger. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, d'abord je voudrais vous souhaiter une belle année.
Merci beaucoup.
Ainsi qu'à l'équipe de Radio Grand Ciel, mais aussi à tous nos auditeurs, hein, une belle année. C'est le temps des vœux, forcément on souhaite à tous une belle santé. Hier, j'ai rencontré un diacre, Jean-Marc Jubaud, qui est un diacre qui sert beaucoup dans le diocèse et qui est malheureusement dans le coma suite à une infection. Donc, la santé, on prie pour lui, bien sûr, on prie pour son épouse et sa famille, mais aussi pour chacun de ceux qui nous écoutent. Hein. Mais aussi des vœux de joie, des vœux de communion, hein, un monde un peu fracturé, la guerre en Ukraine toujours. Mais voilà, si au moins dans son milieu personnel, on sait... manifester cette communion, c'est déjà une source de joie et je la souhaite à chacun.
Oui. Joseph Aloysius Ratzinger, né le 16 avril 1927 à Markel, dans l'État libre de Bavière en Allemagne de Weimar, est décédé le 31 décembre dernier au Vatican. Il fut élu pape le 19 avril 2005 sous le nom de Benoît XVI. On a le sentiment... finalement qu'il fut un pape méconnu entre deux papes extrêmement charismatiques, Jean-Paul II et François.
Oui, on peut penser que ce sentiment a quelques raisons d'être, l'impression qu'il était inconnu. Il fait suite à un pontificat très long de Jean-Paul II. Rappelez-vous Karol Wojtyla, ce pape polonais, excessivement charismatique, un homme de médias, un homme de communication qui a... œuvrait notamment pour la chute du mur de Berlin, pour la chute du bloc Est. Donc il avait une aura aussi vers les jeunes extraordinaires, Jean-Paul II. Benoît XVI était en fait un de ses collaborateurs proches. C'est un homme qui était très érudit, assez discret, un peu timide, très doux dans son regard, dans son approche. Donc il n'est pas apparu comme une vedette après Jean-Paul II. On aurait pensé que ce serait un pontificat de transition, comme parfois on le pense. Je ne le pense pas un instant. Je pense qu'il est venu à bon en son temps, avec un message très construit sur intellectuel, attentif à beaucoup de sujets. Et effectivement, il est suivi par le pape François, qui l'a un peu effacé, on peut dire, avec une forte présence... un pape d'origine argentine, sud-américaine, un pape très sensible au monde social, aux questions de pauvreté, de migration, d'écologie, donc d'un seul coup des sujets qui nous touchent beaucoup. Benoît XVI est un peu effacé, mais il laisse un véritable pontificat magnifique, brillant par sa quête intellectuelle, théologique, philosophique sur la vérité. Je pense qu'il faut retrouver ce qu'il a donné parce que ça nous marquera longtemps.
Oui. Alors, il y a plusieurs dates qui ont ponctué son pontificat dont on se souvient, on se rappelle qu'il lui avait été reproché puisqu'il était allemand d'avoir été dans les jeunesses hitlériennes enfant. On oubliait qu'évidemment c'était une obligation pour un enfant d'intégrer les jeunesses hitlériennes, mais il avait refusé d'entrer dans les Waffen-SS par exemple. Il a déserté à la fin de la guerre. C'est un homme d'action aussi, c'est pas non plus...
Ce qui est frappant, c'est que d'abord sa famille était profondément anti-nazi. Hein. Son père, qui était policier, officier de police, a démissionné devant le régime de Hitler. D'ailleurs, Joseph Ratzinger, quand il était effectivement comme tous les enfants dans ces groupes de jeunesse, a refusé de signer sa carte de membre. Et puis effectivement, il va être d'ailleurs un temps soldat en Bavière. Mais ça, c'était le propre de tous les hommes, oui, d'être au service militaire. Par contre, on lui propose, comme à d'autres jeunes, d'être dans la SS Waffen. Ça, il refuse clairement. Et son argument, c'est de dire « je veux être prêtre ». Non, parce que je veux être prêtre. Et on va beaucoup se moquer de lui, mais il tient bon. Il tient bon et sa position va au contraire se fonder dans sa foi chrétienne, pour une véritable liberté de l'être humain face à un régime qui était absolument oppressant.
Oui. Alors, on reconnaît en lui un intellectuel aussi, hein, brillant. Une cinquantaine d'ouvrages, je crois, sur la théologie, c'est énorme. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé.
Puis, puis des articles et des homélies. D'ailleurs, il voulait être enseignant. Et quand Jean-Paul II l'appelle à être auprès de lui à Rome, c'est pour lui un peu une épreuve. Et puis, au moment où Jean-Paul II est fatigué, lui désire se retirer pour lire et travailler intellectuellement. Et c'est là qu'il va être appelé à ce pontificat. Comme il dit, Jésus disait à Saint-Pierre qu'un jour quelqu'un le conduirait là où il ne veut pas aller. Eh bien, il a pris cette phrase devant ses amis pour dire « je suis pape, mais je ne le souhaitais pas ». Et ensuite, il a été un pape assez étonnant, parce qu'on pensait que sa figure, justement, un peu effacée, timide, au fond, l'éloignerait un peu des jeunes. Et il aura déjà les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse à Cologne, d'autres événements où la jeunesse va venir en très grand nombre. Et au contraire, il va être un homme très apprécié. Moi, j'ai été au même Journée mondiale de la jeunesse à Madrid. On était plus d'un million de jeunes. Sa présence en prière, notamment dans l'adoration, a été très marquante pour tous.
Oui. Alors, on fait souvent de lui un traditionnaliste, c'est quand même assez faux. J'ai vu, en allant fouiner dans sa biographie, qu'en 1968, par exemple, il avait milité pour que des théologiens qui paraissaient à l'époque peut-être un peu trop progressistes soient intégrés, en fait, réintégrés, pas réintégrés, mais intégrés dans l'Église. Donc il y a un mélange chez lui, finalement, à la fois de conservatisme, mais une vraie ouverture d'esprit. Hein.
Bah, c'est-à-dire que cette idée qu'il soit un peu traditionnaliste vient du fait qu'il doit assumer la charge à Rome d'être le gardien de la foi. Oui. Donc le gardien de la foi, c'est quelqu'un qui doit recevoir des écrits de théologiens du monde entier et en vérifier la conformité avec la foi de l'Église. Donc forcément, il apparaît comme celui qui va sanctionner peut-être une position qui serait trop décalée. Maintenant, dès qu'il est jeune enseignant, même pour une de ses thèses, on lui reproche des idées trop progressistes. Oui. En fait, ce qui est derrière ça, ce n'est pas tellement un problème de progressisme ou de traditionalisme, c'est qu'il est ouvert au dialogue, c'est qu'il a toujours voulu dialoguer. Il dit que le dialogue est la clé d'abord de la recherche théologique, la recherche anthropologique, et que tout homme sensé doit dialoguer. Et affronter éventuellement l'opinion diverse des autres. Il le fera avec le monde musulman, il le fera avec ceux de la mouvance lefévriste, il le fera autant qu'il le peut, parce que abdiquer de ce dialogue, c'est justement se refermer. Et ce n'est pas ce que fait le Christ. Le Christ, il va voir les gens, les pharisiens, les foules. Il n'a pas peur d'affronter la position d'autrui. Je pense que Benoît XVI, dans ce sens-là, est un homme excessivement ouvert et qu'il a cette intelligence très puissante des choses pour accepter ce dialogue, parce qu'il connaît chacun et il s'enrichit d'autrui.
Ouais. Alors, son pontificat a aussi été marqué par l'éclatement des premières affaires d'abus sexuels dans l'Église. Et là, il a été extrêmement intransigeant, notamment par rapport au créateur des légionnaires du Christ. C'est vrai, il a dénoncé, il n'a pas caché, il n'a pas mis la poussière sous le tapis. Et ça, il faut peut-être le redire aujourd'hui quand même.
Il a été effectivement très ferme pour aller vers cette tolérance zéro qui a besoin d'un chemin. Hein. C'est loin d'être simple. Mais sa position a été très claire sur cette thématique par sa délicatesse de cœur, je crois, attentif au sort des victimes.
Oui. Et puis, c'est le premier pape à avoir abdiqué. Ça fait jurisprudence, comme on dit, c'est ça?
Il abdique parce qu'au fond, il a le souhait du bien de l'Église. Et d'ailleurs, ce qui est très touchant, c'est quand il va lire sa lettre d'abdication, il dit clairement « Je ne vais pas maintenant m'occuper à voyager et à faire des conférences. je me retire à Saint-Pierre, je me retire pour être au pied de la croix et prier. Je crois que ça participe à ce qu'il est lui-même, un homme délicat, discret, qui jamais ne fera ombrage au pape François, qui pourtant est un homme tellement différent de lui. Je pense qu'il a dû prier beaucoup pour l'Église. Alors, jurisprudence, peut-être, on verra dans les faits. C'est sûr que Jean-Paul II a été au bout de son pontificat excessivement malade. Il avait toute sa tête, en fait, mais il était totalement dépendant physiquement. À l'époque, ça a été une source de grâce. Les gens ont admiré cet homme malade qui allait au bout de ses forces pour le bien de l'Église. En même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, pour être à la tête de l'Église catholique, avec 1,3 milliard ou 400 millions de catholiques, il faut quelqu'un de capable, d'alerte. Et j'admire encore, d'ailleurs, le pape François qui part encore en voyage, alors que souvent, on le voit en chaise roulante, parce qu'il marche difficilement maintenant, il n'a qu'un poumon, rappelons-nous. Voilà, donc, est-ce qu'il faut qu'il abdique? Ce ne serait pas à lui de choisir, mais si ça se faisait... On comprendrait bien.
Oui, on comprendrait bien. Oui. Mmh. Et là, j'ai ouï dire que le pape Benoît XVI est mort en disant « Jésus, je t'aime ».
Il laisse un testament qui va être lu ce soir à la messe que je vais célébrer pour lui. Un testament où vraiment il redit « N'ayez pas peur, Jésus ne prend rien, il donne tout ». Et donc, il a une sorte de confiance. D'ailleurs, il a écrit sur un ouvrage qui s'appelle « Jésus de Nazareth », qui est un des meilleurs ouvrages sur Jésus qu'on puisse lire, qui est abordable, qui est simplifié. D'ailleurs, son langage s'est simplifié avec le temps. Lui qui était un intellectuel allemand très puissant, parce qu'au fond, il est entré dans le mystère du Christ, visage de Dieu parmi nous. Et ça vaut le coup de lire ce livre.
Ouais. Merci beaucoup. Monseigneur, je voulais qu'on parle un peu de l'épiphanie.
Bonne fête de l'épiphanie. La manifestation de Dieu aux nations. Hein. Et puis, par ailleurs, les galettes, n'est-ce pas? Bonnes galettes, mais des bonnes, attention, des bonnes galettes, c'est important.
Et puis, on reparlera quand même un peu du sens de cette fête la semaine prochaine.
Volontiers.
Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur www.radiograndciel.fr. À la semaine prochaine.